Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et surtout avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour.
Bonjour,
bienvenue
mon
sur
cher
Guillaume. Radio Classique, qui est votre radio.
Et oui,
pronostic de quelqu'un qui connaît quand même bien le droit constitutionnel. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel va retoquer la loi?
Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Je pense qu'il va peut-être retoquer une ou deux dispositions, mais pas la loi en entier. Donc, non, c'est pas une porte de sortie. De toute façon,
Parce que visiblement, le président de la République plus Berger, ils ont l'air de considérer que ce serait peut-être la porte de sortie, justement.
Alors, dans ce cas-là, il fallait pas utiliser le 49-3. C'était, dans ce cas-là, il fallait laisser le Parlement donner une porte de sortie, quelle qu'elle soit, soit en votant la loi, soit en votant contre. Dans ce cas-là, il y avait une porte de sortie toute trouvée. Il n'y a pas besoin de passer par le Conseil constitutionnel. Donc, une fois qu'on a utilisé le 49-3, il faut écouter Corneille. Laisse faire le roi, la patience et le temps. Plutôt le temps, la patience et ton roi. Mettons les choses dans le bon ordre. Il n'y a plus que ça à faire. On peut pas, une fois qu'on a utilisé le 49-3, qu'on est passé en force, on ne va pas compter sur les autres pour retirer le... Non, la seule chose que pourrait faire le président de la République, mais c'est très 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 improbable et ce serait extrêmement surprenant, c'est faire ce que Jacques Chirac a fait avec le CPE, c'est-à-dire la loi est promulguée, puisque c'est la loi, mais elle n'est pas appliquée, elle est suspendue. C'est une possibilité, mais c'est très peu probable.
Mais c'est ce que souhaite François Ruffin, parce que l'autre jour, je le regardais sur France 2, tout d'un coup, il a lu une déclaration présidentielle, il avait l'air extrêmement ému, lui qui a quand même dit qu'Emmanuel Macron finirait comme Kennedy, vous en souvenez, au début, pratiquement, devant le Élysée. Il a lu une déclaration.
Côté robespierriste, toujours.
Oui, voilà. Et il a lu une déclaration. Et en fait, c'était du Jacques Chirac qui annonçait justement la suspension de la loi.
Parce que
il avait les larmes aux yeux. Alors que.
C'est la suggestion aussi de Danny Cohn-Bendit. C'est l'idée qui est, comme vous le savez, très, très proche de Macron. C'est l'idée que ça permettrait de relancer la conversation, si je puis dire. En tout cas, le débat, le dialogue avec la CFDT. Voilà. C'est une possibilité, hein. C'est pas totalement absurde. Mais c'est la seule, parce que le reste, dissolution, ce serait une absurdité totale. Le référendum, il y a qu'à voir l'enquête de l'IFOP, le sondage de l'IFOP. Les Macroniens perdraient au moins, au minimum 50 postes, donc je vois pas bien l'intérêt pour eux. Le référendum, on connaît le résultat. Le remaniement, je n'y crois pas, même si je pense que ce serait la meilleure solution, mais je n'y crois pas. Donc voilà, la possibilité, c'est de, pour calmer le jeu, c'est de suspendre l'application pour relancer un éventuel dialogue avec la CFDT. Mais c'est très très peu probable. Non, le plus logique, c'est de laisser le temps passer. Encore une fois, laisse faire le temps, la patience est ton roi. Voilà, je vois pas d'autres hypothèses. Voilà, peut-être, oui, la suspension de l'application de la loi.
La question de la violence, elle est à la fois pratique et terrifiante, comme on l'a vu.
Oui, c'est assez effrayant, mais c'est pas nouveau.
L'autre jour.
Oui.
Justement, c'est pas nouveau.
Non.
Ce qui est particulier, c'est que visiblement, en milieu fermé, c'est-à-dire dans les villes, on l'a vu par exemple au G7 à Biarritz, où on le voit ces derniers temps à Paris, c'est quand même beaucoup plus difficile que pendant la période des Gilets jaunes, où régnait une désorganisation totale, et même la police n'avait pas vraiment de doctrine, tandis que là, visiblement, ils arrivent quand même à endiguer ceux qui viennent pour casser, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais j'en reviens au philosophe que vous êtes, il y a un texte célèbre de René Girard, La violence et le sacré. Au fond, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a dans la jeunesse un besoin irrépressible, justement, qui rappelle le gauchisme de votre génération? C'est-à-dire de s'exprimer non seulement sur des thèses d'extrême-gauche, mais les exprimer violemment.
D'abord, il y a cette idée que seule la violence paye. On en a beaucoup parlé, donc je n'y reviens pas. Et la deuxième chose, c'est que le maoïsme, le trotskisme, le communisme ont disparu, le marxisme est mort, donc ça c'est clair. Mais en revanche, il y a, dans l'écologie radicale, il y a un courant qui est extrêmement violent, c'est-à-dire que l'anticapitalisme est passé du côté de l'écologie. Et elle est extrêmement violente, y compris en Allemagne. On voit pas ça souvent en Allemagne, mais c'est très présent aussi en Allemagne.
Il y a beaucoup d'étrangers.
Bien sûr, et notamment des Allemands et des Suisses allemands. Et donc il y a un courant qu'on connaît pas du tout encore en France, mais qui est de plus en plus présent en Allemagne, qui s'appelle Werte Kritik, le courant de la critique de la valeur, et qui s'inspire de Paul Lafargue, et qui s'inspire des situationnistes, et qui dit, voilà, il y a deux Marx. Il y a un Marx exotérique, au fond, c'est le marxisme vulgaire, qui dit, il faut modifier les conditions de travail, bon, il faut augmenter les rémunérations, travailler sur les horaires, l'autonomie, etc., juste sur les conditions de travail. Et puis, il y a un Marx ésotérique, beaucoup plus radical, c'est celui qui dit, il faut abolir le travail, comme Lafargue, droit à la paresse. La Giffard, qui était le gendre de Marx, qui était un marxiste pur et dur, et qui disait, mais il faut pas critiquer les conditions de travail, ça, c'est bête, c'est social-démocrate, ça. Il faut radicalement abolir le travail. Et vous avez tout un mouvement dans l'écologie radicale en Allemagne qui est pour l'abolition du travail, tout
ça. On avait entendu ça, pardonnez-moi, mais dans le débat sur la motion de censure à l'Assemblée nationale, la représentante, c'est-à-dire la chef des Verts, du groupe Vert.
Sandrine Rousseau.
Non, pas Sandrine Rousseau, celle qui est donc la patronne du groupe au Parlement, qui a carrément abordé ses thèses en tant que parlementaire, donc pas du tout en tant qu'activiste.
Exactement, mais je parlais de Sandrine Rousseau parce qu'elle a évoqué le droit à la paresse.
Hein.
Et donc, Paul Lafargue est dans sa prison en 1883, il y a la deuxième édition de son libelle, Le droit à la paresse, et qui est un libelle très, très étonnant quand on pense à la gauche traditionnelle, puisqu'il dit, mais les ouvriers en 1848 sont complètement cinglés, ils demandent le droit au travail. Ils sont contents que Louis Blanc crée des ateliers nationaux pour donner du travail aux chômeurs. Il dit, mais les ouvriers sont devenus fous, c'est l'abolition du travail qu'il faut demander. Et pourquoi
ça, c'est un non-sens économique total, parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de richesse, et donc c'est la pauvreté.
Guillaume, c'est pour ça que c'est chez les décroissants aujourd'hui. Vous voyez bien la logique. La décroissance aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est justement l'idée qu'il faut abolir la production. Et donc leur idée, évidemment, à mes yeux aussi, comme vous, elle est absolument insensée. Mais leur idée, c'est que ce qui tue aujourd'hui la planète, c'est le capitalisme de la croissance. Et leur idée, ils sont très souvent aussi influencés par Heidegger, c'est-à-dire par l'idée qu'on est dans le monde de la technique. C'est un monde dans lequel on produit de l'argent pour produire de l'argent, on produit de la croissance pour la croissance, on travaille pour travailler, et tout ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut limiter la production, il faut limiter la consommation aux besoins naturels de l'humanité, il faut revenir à des biorégions. Et c'est toutes les thèses à la fois effondristes et décroissantistes qui sont du coup d'une extrême violence, parce qu'ils disent non seulement le travail n'a plus aucun sens, vous êtes un boulon dans une machine comme travailleur, donc il faut pas...
L'état moderne de Chaplin, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Et c'est à la fois Heidegger et Marx le plus radical. Alors ça, c'est pas du tout encore connu en France, mais c'est ce qui anime ces mouvements hyper radicaux. On dit c'est l'ultra-gauche. En fait, c'est une écologie radicale, anti-croissance et anti-capitaliste.
Mais est-ce que vous croyez que demain, la violence va s'exprimer? Parce qu'elle est quand même dans les manifestations. Elle est plus présente qu'elle ne l'était au début, mais elle n'est pas encore du tout du même niveau de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, par exemple.
Mais de toute façon, c'est très minoritaire. De toute façon, on dit c'est 1500 personnes. Voilà, c'est vraiment l'ultra-ultra-gauche. Mais ça gagne du terrain parce que derrière ce qu'on a appelé le big quit et le quiet quit, c'est quand même 50 millions d'Américains qui ont dénoncé leur contrat de travail, c'est pas rien. Bon, et le quiet quit, c'est vraiment donc cette démission tranquille, c'est l'idée. Bon, bah, j'ai besoin d'un salaire, donc je continue à aller à mon travail, mais j'en ferai le moins possible. Et donc cette hostilité au travail, même si elle ne prend pas des formes de violence radicale, elle est quand même très présente aujourd'hui. Regardez, c'est quand même très surprenant que le fait d'annoncer qu'on va travailler 2 ans de plus mette la France en ébullition à ce point-là. Enfin, si on regarde ça du point de vue de Sirius, c'est quand même un peu ridicule. Donc, il faut bien qu'il y ait un mouvement anti-travail derrière. Voilà. Alors, il peut prendre des formes plus ou moins radicales, bien sûr. Les formes extrêmement radicales sont ultra minoritaires. Mais il y a tout ça derrière. Voilà. Et donc, il faudra un jour le comprendre, mais il faudrait que nos gouvernants aient un tout petit peu l'idée de ce qui se passe.
J'ai déjà cité une fois cette phrase que j'aime beaucoup de Joseph Conrad, donc le célèbre auteur d'Au cœur des ténèbres. L'un des plus grands romanciers du monde qui dit « Personne n'est pour le travail, sauf que c'est le seul moyen de se découvrir ». Ce que je trouve une phrase évidemment magnifique, et visiblement ça m'a partagé.
Moi je suis très pour le travail, moi.
Alors, mais justement, question, parce que je sais que vous intéressez beaucoup.
Je suis très pro-travail, moi,
Vous êtes à la fois philosophe, donc littéraire, mais vous intéressez beaucoup à la science et à l'intelligence artificielle et à l'évolution de l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qu'on retrouve et qui serait comparable aux années 60? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont le capitalisme évolue est une manière, c'est un capitalisme qui est fondé en gros sur les sciences, sur les algorithmes et sur la data. Oui. C'est-à-dire que tous ceux, et ça fait partie de votre cas comme du mien, philosophe ou historien, au fond, tous ceux qui font encore dans l'Europe occidentale d'aujourd'hui, et particulièrement en France, des études littéraires, histoire, sociologie, etc., ils n'intéressent en rien les grandes entreprises qui sont en train de gouverner le monde. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça la base de l'inquiétude ? C'est-à-dire qu'il y a, il y a une inadéquation totale entre ce qu'enseigne une université et ce dont, dont les entreprises ont besoin.
Non, ce qui se passe avec la troisième révolution industrielle, donc celle de l'intelligence artificielle, on a énormément parlé de la sortie de ChatGPT numéro 4. Il y a cette idée qui était déjà développée par Rifkin dans un livre préfacé par Rocard qui s'appelait La fin du travail, qui est reprise aujourd'hui par un universitaire Susskind dans son dernier livre sur un monde sans travail qui vient de sortir et dans lequel ils disent que finalement l'automatisation, l'intelligence artificielle et la robotique vont rendre le travail superflu et que ça c'est nouveau parce que c'est pas le type de travail qui va être rendu superflu, qui va être remplacé par les logiciels d'intelligence artificielle, c'est un travail sophistiqué, intellectuel, c'est le travail des architectes, c'est le travail des médecins, c'est le travail des commissaires
aux comptes. La radiologie.
Voilà. La radiologie, voilà. Et même la cancérologie, par exemple. Tandis que...
Enfin, non, il y aura forcément un moment au bout de la chaîne, quelqu'un qui sera compétent et qui dira, il faut faire ça et ça.
Oui, mais il en
l'analyse
faudra...
des données.
Attendez, deux secondes. Il en faudra un sur 50. C'est ça leur idée. Moi, mon ami Laurent Alexandre m'a envoyé là des diagnostics faits par la machine en cancérologie. Commentés par trois cancérologues américains qui disent, on a quasiment rien à ajouter. C'est la machine a donné le diagnostic, elle donne les doses, elle donne le type de médicament qu'il faut utiliser, elle donne la périodicité. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Et donc, c'est ça l'idée. Alors,
c'est un peu court. C'est un sujet que je connais bien. Il a fallu que quelqu'un m'opère quand même. Est intervenu.
Oui, mais regardez, par exemple, dans le cancer de la prostate, les chirurgiens n'opèrent plus.
Ils opèrent aussi.
Non. Ah non, c'est fini, complètement fini. Non, là, vous vous trompez, pardon. Ce sont des machines qui opèrent. Il y a un chirurgien qui est là.
Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question
au départ,
qui est la déprime.
Ils sont à 2 mètres du patient, ou à 3 mètres du patient.
Qui est la dépression.
Non. Mais c'est parce que
du littéraire qui n'a plus.
J'avais pas. Oh, alors écoutez, c'est encore un autre sujet. Les entreprises ne cessent d'inviter les philosophes aujourd'hui. Jamais on a été autant invité dans les entreprises. Jamais. Jamais. Je refuse, je ne sais combien d'invitations par jour.
Pour consultation.
En
Grande-Bretagne.
Oui, mais parce qu'il y a justement une opacité du monde qui est telle qu'ils invitent des experts, justement, généralistes, parce qu'ils se disent, mais où est-ce qu'on va? Personne ne sait aujourd'hui. C'est-à-dire, là où vous avez entièrement raison, c'est que c'est la science qui bouleverse le monde, c'est pas la philosophie. Mais les chefs d'entreprise ont le sentiment d'une telle opacité du monde, d'un tel aveuglement des politiques qui ne savent absolument pas où ils vont, et eux-mêmes ne savent pas trop à quoi va ressembler le monde, que ils interrogent des généralistes d'une certaine manière. Mais je reviens une seconde sur l'idée que la machine, enfin l'intelligence artificielle, va remplacer le travail humain. La nouveauté, c'est qu'en effet, ce qu'elle attaque, ce sont des travaux qui sont pas des travaux manuels, mais des travaux intellectuels. Alors après, on peut discuter combien il restera de radiologues. Bon, mais c'est vrai que la machine est capable de faire des choses aujourd'hui qui étaient autrefois, il y a très peu de temps, réservées aux humains. Et dans le mouvement justement hostile au travail, le mouvement du droit à la paresse, le fameux slogan de Guy Debord, ne travaillez jamais, bon, qui était inscrit sur un, en 1953 sur rue de Seine, sur un mur. Ils disent, mais attendez, non, le fait que les humains soient remplacés par des machines, ça ne changera rien au capitalisme. Autrement dit, le capitalisme continuera à fonctionner encore mieux. Donc c'est pas ça, il faut abolir le capitalisme, il faut abolir le travail, que le travail soit celui des machines ou celui des humains. C'est ça que vous avez derrière le mouvement des Black Blocs. Voilà. Alors, on dit, faut pas dire Black Bloc, j'entendais mon ami Jean-Marie Roir dire, faut pas dire Black Blocs, mais si vous dites casseurs, vous n'avez pas l'idée qu'ils sont noirs et que c'est un bloc. Donc je suis désolé, mais tant en temps, les mots anglais, c'est utile.
Comme la monarchie constitutionnelle.
En revanche, les fautes de français, les fautes d'accord du participe, ça me révulse plus que l'usage d'un mot anglais quand il n'y en a
alors,
pas d'autres.
Vous avez réclamé un Beatle, vous avez le droit à un Beatle.
Alors, vous êtes trop mimi, je veux question. Bien. Avec grand plaisir.
Bon, c'est fou ce que cette centaine de jeunes gens qui ont animé les grands groupes britanniques ont bouleversé le monde dans les années 60, les Beatles, les Rolling Stones, etc., etc. Enfin,
il y avait The King avant lui, il y avait quand même Elvis Presley, et Chuck Berry.
C'est pas
l'américanisation du monde, Guillaume.
Le talent, il vient de nulle peu. Question, est-ce que vous considérez que cette non-visite de Charles III est pour la France une baffe?
Non, on se ridiculise dans le monde entier parce que tout le monde s'est moqué de nous.
En Allemagne,
on s'est moqué de nous. Cela dit, cette visite n'a pas grande importance dans la mesure où Charles III lui-même n'a absolument aucun pouvoir, ni politique, ni commercial, ni économique. Donc, c'est pas si grave que ça. C'est l'image qui est mauvaise. Sur le fond, Charles III, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? C'est un roi sans pouvoir. C'est comme le roi des Belges. Et donc, il n'a absolument aucun pouvoir. C'est pas le Premier ministre. Mais, encore une fois, le fait d'être obligé d'annuler. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment, c'est les, je suis assez fasciné par l'humour sur Internet. Il y a des images où on voit Charles et la reine consort en train de ramasser les poubelles avec un gilet vert. Non, c'est très drôle pour pouvoir préparer l'avenue. Donc c'est plutôt à la fois ridicule et comique, mais c'est pas très grave sur le fond. C'est embêtant. C'est l'image qui est mauvaise. C'est pas sur le fond. Encore une fois, ce serait rien passé avec Charles III. Qu'est-ce que vous voulez qu'il décide, le pauvre. Il n'a strictement aucun pouvoir.
C'est un symbole, c'est une mythologie, c'est comme Hollywood.
Oui, enfin, vous savez, c'est pas un symbole que j'aime, parce que moi, j'ai une immense admiration pour les grands milliardaires français. En revanche, un type qui n'a que se donner la peine de naître pour être milliardaire et être entouré de domestiques et de châteaux, je suis désolé, mon côté méritocrate jusqu'au bout des ongles se réveille.
Luc Ferry, vous avez compris par le silence qui a suivi cette assertion de
cette désapprobation.
J'étais en plein désaccord avec lui, bien que je sois très très loin d'être monarchiste. Autrement, je ne m'appellerais pas Durand. Il est 8h59. C'est un Durand.
Un nom très prolétaire, oui.
Mais Durand, c'était D'HURNG. Vieille famille de
la
Baltique.
Moi, je vais me faire gronder par ma femme qui a une vraie particule.
Ouais. Julie nous attend, et quand Julie nous attend...